Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à bien comprendre la parole, la différence entre un inconverti qui lit la parole de Dieu et le chrétien qui la lit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette parole. Et le passage sur lequel on se focalise, c'est le fait d'être rempli. Et on a dit depuis le début qu'on ne parle pas d'être rempli comme dans une forme de quantité, mais que ce terme parle d'humilité pour pouvoir se soumettre aux enseignements du Saint-Esprit. Et comme on avait fait la comparaison, comme un enfant qui se soumet à ses parents, c'est quelque chose qui se fait et qui a besoin d'être refait avec chaque volonté des parents. À chaque fois que l'un des parents dit « je veux que tu fasses ceci ou cela », l'enfant doit faire le choix de se soumettre ou non. Et c'est ce que nous devons faire au Saint-Esprit qui est en nous à chaque fois. Et quand nous faisons ça tout le temps, nous sommes entièrement soumis au Saint-Esprit. Et on a dit de quelle manière est-ce qu'on peut arriver à ce stade? De quelle manière est-ce qu'on peut en arriver là? On avait parlé la dernière fois de faire cet examen personnel pour voir si nous sommes conformes entre notre vie et la volonté de Dieu pour nous dans notre vie. On ne va pas refaire cela. Mais il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. On avait vu 2 Corinthiens, on avait vu 1 Jean 3, etc. Mais c'est pas seulement d'être conforme, qu'on est là dans la volonté où Dieu veut qu'on soit, mais également de demander, est-ce qu'il y a la moindre chose dans ma vie? Est-ce qu'il y a la moindre chose qui te déplaît? Parce que la définition même du péché, c'est de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut ceci et moi je décide de faire autrement, c'est péché. C'est pas autre chose. Il n'y a pas d'autre façon qu'on peut excuser ce qu'on veut faire. Si Dieu veut qu'on fasse ceci, mais que nous on décide de faire autre chose, c'est un péché. Dieu dit tu ne tueras point, ben je décide de tuer, c'est un péché. Dieu dit tu ne mentiras point, je choisis de mentir, j'ai péché. Dieu dit sois bon les uns avec les autres, moi je dis je veux être bon envers moi d'abord, c'est un péché, etc., etc., etc. Et donc on fait cet examen personnel pour voir est-ce que le Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit va révéler le moindre péché dans ma vie parce que j'ai le désir d'être conforme, de ne pas être contre sa volonté. Donc il est normal que si en faisant cet examen personnel, il nous montre qu'il y a des choses qu'on doit changer, ben, le processus logique qui suit, ce n'est pas juste d'en avoir connaissance pour ensuite ne rien faire avec. Si le Seigneur, le Saint-Esprit nous montre, non, effectivement, là, à ce moment-là, la manière que tu as parlé avec l'autre personne, c'était de manière pas comme je voulais. Tu étais très orgueilleux, tu étais méchant, tu étais je ne sais pas quoi, ou tu as exagéré, tu as menti, peu importe ce que c'est, il révèle quelque chose. C'est pas dire, ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, et on continue comme si de rien n'était. Le but pour qu'il nous le révèle, qu'on ait cet examen personnel, c'est pour pouvoir corriger les fautes qu'on a sur cet examen, et pas de laisser les fautes comme telles quelles, et donc de confesser ce péché. En 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9, il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ah oh ben oui, j'allais dire, vous voyez, ben non, vous voyez pas parce que c'est plus cadré. Ben non, vous voyez. Bon. Mais à chaque fois, ça commence avec si. Donc c'est conditionnel. C'est pas conditionnel sur l'aspect de la responsabilité de Dieu, c'est conditionnel sur ma volonté. Si je dis que je n'ai pas de péché, on se séduit nous-mêmes. C'est pas vrai. La Bible a plusieurs références, j'ai pas eu le temps de toutes les marquer, c'est parce que c'est pas le but ce soir, qui nous montre encore et encore que nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un bon, pas même un seul, etc. Mais ça vaut également le coup que si on fait le test pour demander à Dieu de révéler quelque chose, il dit, oui d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais non, ça c'était pas un péché. C'était une faute. Parfois, j'entends des chrétiens parler de leur péché de cette façon-là. Ah oui, c'était une faute. Je suis désolé, mais c'était plus qu'une faute. Ce n'est pas juste une erreur. Pourquoi est-ce que certains chrétiens utilisent ce terme? Parfois, si on utilise le mot erreur ou une faute, c'est un peu, ah ben, je n'ai pas fait exprès, c'était malgré moi. Alors que, soyons honnêtes, ayons cette humilité, c'était un péché. Il est possible qu'effectivement, il y a certaines choses que j'ai faites un peu trop hâtivement, et j'ai fait quelque chose que je regrette et que j'aurais pas dû. Mais c'est pas quand même, c'est toujours pas une erreur. C'est quand même un péché. Et ça nous aide, il ne faut pas se séduire soi-même, essayer de trouver autre chose. Mais par contre, si on en arrive à avoir cette honnêteté, si on confesse nos péchés, Dieu, il le sait. Dieu, il les connaît déjà. C'est pas qu'on est en train de lui révéler un péché que lui ne connaît pas, parce qu'on a déjà fait le test pour que lui nous le révèle. Mais lui, si on est assez humble pour confesser nos péchés, qu'est-ce qu'il dit ? Il, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il en a donné la promesse. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc on n'a aucune excuse pour ne pas être en règle avec lui. La seule condition, c'est qu'on admette et qu'on les lui confesse par la foi, que lui fera ce qu'il a promis de faire, de nous pardonner de toute iniquité, nous purifier de tout péché. Parce que, comprenons bien que tout péché, pas juste, oh ça c'est le grand péché, non, tout péché nous sépare de Dieu. Tout péché met une séparation entre moi et Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Dieu ne peut avoir le péché dans sa présence et faire comme si de rien n'était. Tout péché va rompre notre communion avec lui, sans exception. Ce n'est pas un péché plus qu'un autre, petit ou grand à nos yeux. Tout péché va nous séparer de la communion que Dieu voudrait avoir avec nous. Alors si on examine et on fait cet examen personnel et qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, qu'il y a un péché qui offense Dieu dans notre vie, ben, l'importance n'est même plus le péché en lui-même. L'important, c'est si on va l'admettre et le confesser. Dieu ne veut pas qu'on se focalise et qu'on fasse tout un tas du péché. Il veut qu'on se focalise sur notre obéissance de vouloir le confesser et d'accepter son pardon. Le Saint-Esprit, qui est dans la vie du croyant, sera toujours rapide à nous révéler le péché dans notre vie. Il est logique qu'on comprenne que le Saint-Esprit a le péché en horreur. Il ne va pas tolérer, comme le monde aimerait nous voir tolérer le péché. Le Saint-Esprit ne va pas le tolérer dans notre vie. Nous sommes son temple, la Bible dit. Et il ne peut pas y avoir la moindre saleté dans le temple qui est supposé accueillir la sainteté. Il va nous montrer tous les endroits de notre vie qui sont sales et qu'on doit nettoyer. Il va nous révéler nos péchés, il va nous révéler nos mauvaises pensées, nos mauvaises motivations, et etc. Pas pour nous enfoncer, pas pour nous montrer à quel point on est mauvais, mais pour qu'on puisse s'en débarrasser en le confessant et en acceptant le pardon de Dieu. Sans mettre de restrictions. Ah, mais ça c'est un péché trop grand, si j'avais su que tu avais fait ça, je ne t'aurais pas dit que tu pouvais te confesser. Non, aucune restriction. Ni sur le type de péché, ni sur le nombre de fois que j'ai commis ce péché auparavant. Tout péché, confesse-le, et je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Tous tes péchés, et te purifier. Dieu est saint, de par définition. Dieu est pur, sans tache, sans défaut, sans péché. Il est logique qu'il ne veuille pas résider dans la vie d'un de ses enfants qui refuse de se laver, qui refuse de se purifier et donc de demander pardon et confesser ses péchés. Le Saint-Esprit ne va pas accepter de vivre en nous avec le péché à côté de lui sans rien dire. Il va nous le révéler. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est prêt à l'admettre? Est-ce qu'on est prêt à dire « Oui, c'est vrai, je veux confesser, je veux l'admettre. » Il est impossible pour nous, pour le chrétien, d'être rempli de l'Esprit si on refuse de confesser le péché qu'il met en évidence dans ma vie, juste parce que je veux l'excuser ou rationaliser ou mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, ou je ne sais quoi d'autre, de quelle manière on va essayer de penser, si on refuse, on ne peut pas être rempli non plus. Ça devrait être évident. Quand je manque de compassion envers quelqu'un d'autre, ça va offenser le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça que je veux que tu agisses. Il n'y a pas de moment où Dieu va demander à ce qu'on manque de compassion pour quelqu'un d'autre. Même si on doit dire quelque chose de dur et de sévère pour quelqu'un, ce sera toujours avec amour et avec compassion pour aider cette personne et non juste pour lui dire ses quatre vérités. Si je manque d'humilité ou si je garde dans mon cœur de l'amertume ou de la colère, il est clair que je ne veux pas être rempli du Saint-Esprit en même temps. Je dois confesser, je dois admettre que j'ai tort. Dire, oh, mais tu n'as pas entendu ou vu ce que l'autre il m'a fait, c'est normal que je sois en colère. Je n'ai pas d'excuse. Je sais que ces choses ne plaisent pas à Dieu et je suis désolé de l'avoir offensé en salissant ma vie. Cette nouvelle vie qu'il m'a donnée par sa grâce à travers le sang de Jésus-Christ. Je dois arriver au point où je dois faire un choix. Soit je renonce et je dénonce les péchés dans ma vie, ou je renonce d'être rempli et contrôlé par le Saint-Esprit. C'est l'un ou l'autre, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Ce qui va amener une toute autre liste de problèmes et conséquences dans ma vie, si je refuse d'être soumis au Saint-Esprit. En 2 Timothée chapitre 2, verset 20, il nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et pour faire un peu de parallèle, en 1 Corinthiens chapitre 16, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc. » Ça, c'est le découlement, résultat logique de cette vérité. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Il rappelle une fois de plus ce qu'il vient de dire, qui appartiennent à Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être un chrétien qui est un vase d'usage vil. Je veux être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, parce que je reconnais que ma vie lui appartient maintenant. Il veut pas juste m'utiliser pour me mettre de côté comme pour un usage vil, il veut m'utiliser pour le bien de son royaume, tout en me faisant un vase d'honneur pour lui. La façon qu'il dit même ces paroles, ne savez-vous pas que... Il est en train de dire, je sais que vous le savez, je sais que ça, on vous l'a déjà enseigné, mais permettez-moi de vous rappeler ce que vous savez déjà. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas juste... Ah, c'est simple. Il y a une certaine symbolique de la chose. Mais votre vie, votre corps, votre vie ne vous appartient plus. Vous n'avez plus le droit même de faire ce que vous voulez sans prendre en considération la volonté de Dieu maintenant. Vous n'avez plus le droit de dire « je fais ce que je veux, ma vie m'appartient ». À plusieurs reprises, vous n'appartenez point à vous-même. Vous appartenez à Dieu, il vous a racheté. Quelqu'un me dit « je n'appartiens à personne, alors qu'il est chrétien. » Je lui dis, mais est-ce que tu as une voiture? Oui. Est-ce qu'elle t'appartient? Ben oui. Pourquoi est-ce qu'elle t'appartient? Ben parce que je l'ai achetée. Voilà, tu as payé le prix pour cette voiture. Christ a payé le prix pour ton âme et tu l'as accepté, le cadeau qui vient avec. Tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens. Mais au lieu de faire de toi quelque chose d'inutile, il a dit, je fais de toi maintenant mes enfants, je veux faire de toi d'un usage d'honneur. Et c'est normal que je dise que ta volonté se fasse et non la mienne. Donc, quand on a fait cet examen, pour demander au Seigneur, montre-moi s'il y a le moindre péché dans ma vie, c'est le processus normal de dire, Je te demande de me montrer le péché dans ma vie parce que même avant que tu me dises quel est ce péché, je veux le confesser, je veux l'admettre. Je ne vais pas faire obstacle, je ne vais pas me remplir d'orgueil et de fierté et d'excuses. Montre-moi qu'est-ce que je dois confesser pour que je le confesse et qu'on puisse avancer. Parce que je veux être entièrement soumis au Saint-Esprit en moi. Et c'est là justement la troisième étape qu'on n'aura pas le temps de voir ce soir, parce que c'est peut-être des quatre points sur comme les étapes à suivre pour être rempli du Saint-Esprit, c'est celui où on passera un tout petit peu plus de temps que les autres, parce que c'est celui auquel on a le plus de problèmes. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de problème à de temps en temps demander est-ce qu'il y a la moindre chose, est-ce qu'il y a le moindre péché dans ma vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de problème à dire bah, c'est vrai, si je veux faire cet examen, si je veux voir s'il y a la moindre chose de mal dans ma vie, parce que je suis prêt à le confesser, je veux avancer. Mais ensuite, de se soumettre entièrement, on connaît le principe, on comprend ce que ça veut dire, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique régulièrement, quotidiennement. Et c'est pour ça qu'on passera peut-être un peu plus de temps sur ce troisième point. Mais on va s'arrêter là pour ce soir, parce que je ne veux pas commencer en ayant un point aussi grand. Et peut-être qu'on pourra juste s'arrêter sur ce principe. Pour le chrétien, il ne devrait avoir aucune difficulté de pouvoir confesser ses péchés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait ce pas de la foi, ce pas de soumission, d'humilité, d'admettre qu'on est pécheur, qu'on a accepté le salut que Dieu veut nous offrir. On a déjà dû faire cet examen personnel. On s'est dit, je ne mérite pas d'aller au ciel. Je ne peux pas faire assez de bonnes œuvres pour acquérir le salut, pour entrer au ciel. Si tel était le cas, Christ est mort pour rien. Christ aurait pu venir enseigner et dire, voici, faites les bonnes œuvres comme moi et vous serez au ciel et repartir au ciel sans avoir besoin de souffrir et de mourir sur la croix comme il l'a fait. Mais il a dit non, vous ne pouvez pas mériter le ciel. Vous ne pouvez pas faire assez de bonnes œuvres. Alors moi, je viens faire l'œuvre que vous ne pouvez pas faire, celui de prendre vos péchés sur moi en mourant sur la croix parce que j'ai vécu une vie parfaite, sans faute, sans péché, et pour que vous puissiez avoir la vie éternelle à travers moi. Et on a, ceux qui sont sauvés, pour nous qui sommes chrétiens, on a déjà fait ce pas de la foi, on a déjà accepté de confesser nos péchés pour accepter le salut que Dieu nous donne. Il devrait être tellement facile pour nous de pouvoir continuer le reste de notre vie à continuer à faire pareil pour qu'on puisse être soumis, remplis du Saint-Esprit. Et j'espère que ce qui viendra faire obstacle, ce ne sera jamais mon incrédulité, ou mon orgueil, ou ma fierté. Est-ce que vous avez des questions?